arrête de souffler.
Oh, tu m'énerves. T'as tout le temps regardé la télé, tes matchs de foot, là. Oh, j'en peux plus, là. Je suis littéralement ventousé devant ton écran à regarder toute cette espèce de barbare qui court après la balle.
Des barbares ?
Oui, ce sont des barbares.
Des beaux athlètes comme ça ?
Ah, d'accord, je vois ce qui t'intéresse. Hein ? Évidemment. Hein, c'est la fête des corps.
Attention, je vous interromps, c'est parti. C'est un départ qui... Oh là là.
Aïe, que se passe-t-il?
Oui. Serait-ce à nouveau Satan d'imite?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
Voilà. Oh,
ça va aller par l'air.
Quel pied. Oh putain.
Oh là là.
Eh bien, bien bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Ta Mère en Short, 4e épisode. Et oui, la part belle faite au sport sur l'antenne du 102.4 FM, c'est Ta Mère en Short, tous les lundis, 12h30, 13h30. On rappelle, hein, on reçoit des associations sportives investies sur l'agglo d'Évreux ou l'agglomération d'Évreux et ses communes avoisinantes. Nous prenons le temps aussi de parler de l'ALM Basket et de l'ALM Basket et puis quelques résultats locaux forcément. Nous sommes en compagnie de Monsieur Guimauquet. Bonjour camarade.
Salut.
Et puis, voilà, le traditionnel Fifi qui n'était pas là la semaine dernière mais qui était là il y a 15 jours pour parler de l'ALM Évreux. Ce sera dans quelques minutes. Salut Philippe.
Salut, désolé pour la semaine dernière.
Bah, je t'en prie, on dit pas ça pour ça. Nous recevons aujourd'hui, et nous parlerons donc de guidon, de rayon, de boss. Nous parlerons du Évreux BMX avec Isabelle et Jean-Luc. Bonjour à vous, mesdames et messieurs.
Bonjour à vous, Isabelle Nunez, présidente du club.
Enchantée.
Et bonjour à tous les cyclistes et aux autres également.
Voilà, on prendra le temps de parler de votre club, de son actualité, parce qu'elle est dense, elle est en deux parties, hein. C'était le week-end passé qui vient de s'achever et ce week-end à venir, et puis on prendra le temps vraiment de parler un petit peu de sa vie au club de Évreux BMX. En attendant, tout de suite maintenant, Monsieur Guimauquet, on rentre en musique, c'est ça ?
On s'attarde un petit peu sur l'effet marquant du week-end.
C'est mieux.
Ce qui a retenu notre attention et
une étape.
Oui, vous sautiez une étape, cher Damien. Vous vouliez peut-être commencer ?
Non, je voulais pas commencer.
D'accord. Honneur aux dames, peut-être. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Isabelle, ce week-end ? Est-ce que vous avez regardé un petit peu de sport ? Ou vous-même, il me semble que Évreux BMX organisait ou participait à une compétition. On peut revenir rapidement dessus. Pour commencer.
Effectivement, pour mon week-end, ça a été la course qu'on a organisée hier, le championnat de l'heure, où 120 pilotes ont concouru sur la piste de l'Évreux BMX à Saint-Michel pour les titres de champion de l'heure.
Alors on a appris ça juste avant de prendre l'antenne. Donc moi j'appelais ça des cyclistes en général, mais dans le BMX on dit aussi pilote.
J'aurais dit biker moi.
Ouais, mais biker. Ouais. Voilà. Je pense
mais non,
ça
on est sur pilote.
Ouais. Pilote ou rider.
Voilà.
Biker c'est plus.
C'est plus en harley
avec des franges. Il y a des franges. Jean-Luc, vous, il y a quelque chose que vous avez retenu ce week-end ou qui vous a marqué ou qui vous a fait plaisir?
Alors,
ou énervé d'ailleurs.
Non, plaisir, effectivement. Moi, je vais vous surprendre, c'est un scoop. C'est encore une affaire de vélo, bien évidemment. C'est samedi, le championnat de France élite sur piste, sur le vélodrome tout neuf de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec tous les meilleurs Français qui sont à la fois les meilleurs mondiaux. Donc, grand spectacle, grandiose, à renouveler en 2015, puisque la France accueillera les championnats du monde sur piste, justement.
Vous l'avez regardé à travers la boîte carrée surnommée la télévision, vous y étiez?
C'était du direct live.
Ah, c'est cool. Philippe?
Eh ben moi, j'ai fait un petit week-end traditionnel, j'ai fait une petite tournée des popotes. J'ai vu une belle équipe de volleyball, d'Évreux Volleyball, actuellement donc en Elite B, qui a des adversaires qui sont quand même d'un niveau moindre que l'an passé, ça se voit pour l'instant, les choses sérieuses vont arriver. Mais j'ai vu donc des belles choses, une équipe assez bien physiquement, qui ressemble vraiment à une équipe taillée pour jouer les premiers rôles, on lui souhaite, devant une formation de Valois. Bon, c'était plutôt une bonne soirée. Puis il y a le public qui est resté fidèle, ça c'est très bien, parce qu'ils avaient réussi, et on avait un peu peur qu'avec ce qui s'était passé l'an passé, une fin de saison assez difficile, que le club puisse un peu perdre sa progression. Et pour l'instant, ils ont gardé un public, et ça c'est déjà pas mal.
Très bien. Monsieur Guimauquet, vous ?
Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai regardé le football, notamment la Ligue 1 et la Première Ligue anglaise. Donc, il y avait une grosse affiche en Première Ligue Chelsea-Arsenal, ou Arsenal-Chelsea, je crois que c'était du côté de Stamford Bridge, le stade de Chelsea. C'était assez ennuyeux pour une grosse affiche comme ça, on s'est clairement embêté. Chelsea a fini par gagner, voilà, je crois que c'est inévitable, ils sont armés pour gagner ce championnat. À part Manchester City, je vois pas qui pourra les taquiner, mais pour une grosse affiche, c'était assez décevant. Et sinon, hier soir, il y avait une grosse affiche en Ligue 1, PSG et Monaco. Et là, pareil, on s'est vraiment ennuyé. Ça a terminé sur un match nul, très peu d'occasions. Les deux équipes ont l'air un peu rincées par la Ligue des Champions, alors que ça fait que deux journées de Ligue des Champions qui ont été jouées. Pendant ce temps-là, l'Olympique de Marseille caracole en tête et prend de l'avance. Et ça va être, à mon avis, très très dur d'aller les déloger, même avec les milliards d'euros de pétrodollars qataris.
Je voulais rajouter quelque chose sur la Ligue 1. J'ai vu un beau petit match, je regarde rarement le foot, et j'ai vu un beau petit match de foot samedi après-midi, justement avant le volet, là, entre Caen et Marseille, avec un final vraiment époustouflant. Et franchement, c'était assez réjouissant, parce qu'on a vu deux équipes qui jouaient l'offensive. On a tellement l'habitude de voir des trucs qui sont cadenassés à fond. J'ai écouté l'autre jour, je crois qu'il y avait à la mi-temps des matchs de Ligue 1, des 5 ou 6 premiers matchs, je crois qu'il y a eu un seul but, je crois que c'était à Reims, et le reste c'était que des 0-0. Je me demande comment on peut se prévaloir d'avoir un beau championnat en ayant des 0-0. Et tandis que là, même si c'était 0-0 à la mi-temps, le 2-1 là, de Marseille au final avec un très beau but de Gignac à la fin, c'était vraiment très sympa.
Bien vu.
C'est vrai qu'on a coutume de dire que la Ligue 1 est un championnat défensif, et cette année Marseille secoue un peu la fourmilière et ça devient agréable. Et même contre des équipes un peu plus faibles, entre guillemets, comme Caen, sans leur manquer de respect, qui ferment pas le jeu, ça donne du beau spectacle. Damien.
Ouais, bah moi j'ai passé un vendredi soir sur la terre à pianoter sur le PC, puisque bah voilà, pour suivre l'ALM Basket, c'est malheureux quand même, un deuxième niveau national. Il n'y a pas de radio qui retransmette la rencontre comme ça à l'extérieur.
Un peu, ouais.
Et ou trop peu. Et en l'occurrence, elle jouait à Souffel, et du coup, j'ai suivi parce que la LNB.fr propose de le suivre en live texte. Donc voilà, un vendredi soir à regarder un écran pendant une heure et demie avec des 2 points, 3 points, un nom de joueur, faute, temps mort. Voilà, mon week-end sportif, il est pianoté devant un PC.
On va revenir sur ce match.
On va prendre le temps.
On se fait une petite pause musicale,
right,
et puis on revient juste après pour parler de résultats locaux et de l'ALM Basket.
Yeah.
Shellac avec le morceau Gary, extrait de l'album qui vient juste de sortir, qui s'appelle Dude Incredible. Voilà, on est toujours dans Ta mère en short, votre émission sportive sur l'antenne de Principe Actif. On va revenir sur les résultats du week-end, les résultats des différents clubs locaux que nous avons décidé de suivre.
Et que nous avons reçus. On avait démarré justement la saison avec le handball, Saint-Sébastien Sport Handball, qui joue en pré-national, et qui nous avait évoqué le fait qu'ils avaient une grosse équipe. Et ça s'est encore vérifié ce week-end, avec une victoire à Oissel, 30-18. Alors j'ai un petit commentaire rigolo du coach, alors je vous le lis. Le collectif 100% pur heure a mis une raclée au collectif 100% pognon de la Créa Oissel. 30-18, 15-8 à la mi-temps, la différence entre des gars qui jouent pour des valeurs humaines et des mercenaires. Il y avait beaucoup de cœur sur le terrain, on laisse imaginer un peu d'ambiance et de virulence. Je suis très fier de ce qu'ont pu montrer les joueurs. Prochain match, et du coup, ils donnent déjà rendez-vous, ce dimanche à 16h au gymnase Pierre de Coubertin, l'enceinte sportive de Saint-Sébastien, entrée gratuite. Voilà, une belle victoire 30-18 de Saint-Sé.
Ouais, ça lui tenait à cœur, je pense, à Anthony, là, parce qu'il a, c'est son ancien club, il sait très bien que ça a un peu évolué, le club a un peu évolué vers le sport pognon, hein, comme il le dit. Et je pense que je ne sais pas s'il y a eu la même altercation entre lui et Wenger, Wenger et Mourinho, mais je pense que ça devait être chaud, ça devait être assez sympa.
On a reçu ensuite le AC Basket féminin et on apprenait ce jour-là que Jeff aussi coachait la N3 de l'ALM, donc le premier niveau amateur de l'ALM Basket. Eh bien, défaite pour les deux, malheureusement, puisque la Nationale 3 a perdu 64-52 contre Bon Conseil, l'association sportive Bon Conseil, a priori en région parisienne. Et le AC Basket féminin, défaite 49-43 contre Césaire Le Vilain. Voilà. Pour le volleyball, il l'a abordé très brièvement, l'ami Philippe, il était présent à la rencontre. On peut donner plus précis sur le score. Elles l'ont emporté 3-7-0, 25-19, 25-9 et 25-23. Paris-Levallois, c'est la plus faible équipe. Elle n'a pas remporté une seule de ses rencontres. Sur les trois rencontres qui sont déjà déroulées en championnat élite. Juste pour rappel et précision aussi, le VB est actuellement première puisque c'est la seule équipe qui a gagné ses trois rencontres, mais qui les a remportées par 3-7-0. Donc ça ne fait pas le même nombre de points au final. Voilà qui est dit, voilà qui est fait.
Ça a l'air de plutôt bien se passer pour le VB cette année, en cette rentrée-là.
Ça va mieux.
Ouais, c'est pas mal. Et puis, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le Valois, c'est une équipe qui a, je pense, qui a un petit peu niveau inférieur, mais qui avait une ossature, pareil, d'une équipe qui se connaît depuis un petit bout de temps. Il n'y a pas eu photo, quoi. Même si le dernier set est un peu plus accroché, il y a quand même une nette différence. Donc, c'est assez intéressant.
Football.
Oui, rapidement, le FC 27, le club phare hébroïcien, a gagné à domicile. Ils sont ils sont en division d'honneur, en DH. Et l'équipe 1, j'ai regardé que l'équipe 1, 3-1 contre Gagny à domicile.
C'est bon signe parce qu'ils ont encore, c'est les derniers clubs qui sont engagés en coupe. Là, ils vont jouer à Pont-Audemer la semaine prochaine.
Ils avaient gagné en Coupe de France
pour le 7e tour. Ouais. Et ils espèrent. Et puis ça recommence à ressembler aussi à quelque chose. C'est assez sympa. Et voilà, on parle pas trop d'argent. On est plus quand même dans le foot et dans la formation. C'est pas mal.
On rappelle qu'ils étaient descendus de CFA2 il y a 2 ans maintenant.
Ah, exactement.
On s'attaque à
l'ALM. On va parler de l'ALM directement, on ne va pas perdre de temps. Philippe, c'était la première vraie rencontre du championnat. Là, on parle plus de la coupe en papier mâché. On était sur une vraie rencontre, la première, alors avec des péripéties, puisque dans les jours précédant la rencontre, blessure de Desmond Quincy Jones, Pierre-Étienne Drouot qui a été plus longtemps arrêté que imaginé, mais ça aurait pu être plus grave aussi, il y a un problème au poignet. Donc du coup, c'est l'arrivée de deux joueurs qui connaissent bien la division.
Fabien Tortosa.
Voilà. Et puis Sambou Traoré qui connaissait bien le club. Voilà. Donc du coup, les deux étaient qualifiés. On savait pas trop comment aller jongler Rémi Vallin avec ses joueurs, puisque il y avait quand même un effectif qui était, oui, il avait 10 joueurs, mais en même temps, c'était pas ceux de départ. Et puis il y avait toujours cette incertitude sur le pivot titulaire US qui est Gentig. Sanson plutôt pas mal sorti.
Ouais, c'était pas mal, ouais. Enfin, donc il a fait du Rémi Vallin, c'est-à-dire qu'il est parti sur son fonds de commerce, c'est-à-dire un 5 majeur habituel. Il a pas essayé de faire un coup en entrant Sambou Traoré dans le 5 de départ, par exemple. Il avait dit qu'il utiliserait ces deux nouveaux pigistes, enfin, on appelle plus ça des pigistes d'ailleurs maintenant, on va peut-être en reparler tout à l'heure, on appelle ça des CDD, en fait, maintenant, ce sont des CDD.
D'accord.
Et maintenant, il n'y a plus de pigistes médicaux. On va se retrouver avec des gens. On a le droit, pendant toute l'année, à avoir 16 contrats, en tout et pour tout. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la LM avait 10 joueurs signés et à 2 nouveaux joueurs. Elle a le droit encore d'avoir 4 nouveaux joueurs maximum sur la fin de l'année, sachant qu'un CDD ne peut être renouvelable qu'une seule fois et ça sera jusqu'au 30 juin prochain. C'est-à-dire que donc, maintenant, il y aura un peu moins. Et ça, c'est plutôt une avancée assez intéressante parce que ça va éviter des magouilles, des clubs un peu plus friqués qui, à la fin, vont chercher.
On pense pas à Rouen, par exemple, l'année dernière.
Non, on ne pense pas du tout à Rouen. Et donc, ça va être plutôt sympa parce qu'il va y avoir une certaine équité par rapport à tout ça, sachant qu'à partir du, je ne sais plus, je crois que c'est la 12e journée de retour, je crois qu'on n'aura plus le droit qu'à un seul apport. Et après, pour les playoffs, on n'aura le droit à aucun autre apport que des joueurs qu'on a déjà signés.
Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal.
Et puis donc, la LM, il y a 3 joueurs sur le flanc, ce qui est aussi le petit cordinier qui n'a pas encore fait ses débuts pour l'instant. Là, donc, on se retrouvait avec donc un effectif assez amoindri. Il y a le petit Dolo Domingo qui a fait le 10e, mais qui n'a pas joué. Et puis donc, ils ont fait quelque chose de plutôt bien, avec un 5, je dirais, un 5 majeur normal, je dirais traditionnel, en mettant Lau Konaté, Constantin, aux côtés des trois US, Mexicano US, Cosi, Sanchez et Eugène Tigue. Ce 5-là n'a pas fait un très bon départ, parce que je crois qu'ils ont encaissé un 8-0 au départ, ils sont menés dans le premier quart. Par contre, les rotations ont bien opéré, Babacar Niang a encore fait une bonne apparition aussi. Et puis voilà, on se retrouve avec quelque chose d'assez sympa derrière. Et puis donc, la petite info que je vais dévoiler demain notamment, c'est que c'est une habitude chez Rémi Vallin de remporter ses premiers matchs. Il n'est pourtant pas servi parce que le calendrier lui propose souvent des matchs à l'extérieur, mais je crois que c'est la 7e fois en 8 saisons à la tête de l'équipe qui remporte ce premier match à l'extérieur, qui est important parce que ça lance quand même une vraie saison.
Oui, carrément. Bon, après, en face, c'était pas non plus la plus grosse écurie du championnat.
Non.
Accédant il y a 2 ans en Pro B, c'était quand même pas l'adversaire le plus flashy de la division. Malgré tout, donc on peut vite développer quand même 16-11 dans le premier quart encaissé par la LM Évreux, donc ça part très mal. 11 points dans un premier carton, offensivement, c'est très léger, pour ensuite complètement renverser la vapeur avec un 22-9 et donc les amener à la mi-temps à 33-25.
Ouais, et on se retrouve, enfin, tu dis que c'est pas une équipe flashy, mais c'est une équipe qui est super difficile à jouer parce que c'est une équipe qui limite vachement les possessions adverses. Tu te retrouves avec beaucoup moins de tirs que lors des matchs normaux, donc ce qui fait que justement, quand t'es pas à droit au départ, comme l'a été la LM, tu te mets vite dans le rouge. Et c'est une équipe qui base son fond de jeu sur la défense. On se retrouve avec une équipe d'Evreux qui était quand même incertaine, je dirais, au départ, parce qu'on n'a pas fait une grosse, grosse pré-saison, même s'il y a eu des bonnes choses. Et puis, à l'arrivée, quand même, elle retrouve quand même un certain lien et tout ça. C'est plutôt pas mal, quoi, d'avoir réussi à inverser cette... je pense que ça sera quelque chose de positif, notamment pour les prochains matchs, parce qu'il y a un gros calendrier qui attend la LM.
Moi, j'avais noté, tiens, une stat rigolote à la mi-temps, c'est qu'on était Alors, c'est rigolo parce qu'on était à 2 points très légers, parce que j'ai dû voir un 8 sur 23 à 2 points à la mi-temps, et puis il y avait un 7 sur 16 à 3 points pour la LM Évreux. Donc, régulièrement, normalement, en temps normal, on est plus à droit à 3 points qu'à 2 points. Bah, là, c'était complètement l'inverse. On avait Eugène Tic qui était à 6 rebonds à la mi-temps, mais avec 2 points seulement. Ça, c'était un peu le. Qu'allait faire ce joueur qui est décrié, qui lui-même signifier que c'est vrai qu'il était surpris du niveau de la Pro B. Voilà, on savait pas trop, il y avait des questions de départ, pas de départ, d'ailleurs il y a des bruits de couloir, on sait pas vraiment ce qu'il en est. En attendant, il était le meilleur rebondeur de son équipe à la mi-temps avec 6 rebonds, ce qui est plutôt très honnête à ce niveau de la rencontre. Par contre, il était déjà à 3 ou 4 balles perdues, malheureusement. Ensuite, ça a enchaîné dans le troisième carton. Là, ça fait quasiment jeu égal. La LM Évreux l'emporte 16-15. Donc, il y avait 8 points d'avance à la mi-temps. Donc, un petit point supplémentaire, 49-40. Pour finir à 65-51. Donc, n'encaisser que 51 points. Philippe, ça, c'est quand même bien joué, ça.
Donc, ça, c'est le record, le record pour un premier match de la saison.
D'accord.
Points, c'est très, très bien. Pour Eugène Tigue, je pense qu'il a au moins compris qu'il fallait faire les efforts au moins au niveau défensif et protéger son cercle. Donc il fait 10 rebonds, 8 défensifs, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que tout simplement la LM n'a pas les moyens à l'heure actuelle de le couper de toute façon. Je pense qu'il va falloir plutôt essayer de positiver la chose et de le faire intégrer, sachant que c'est quelqu'un qui met de la bonne volonté aux entraînements. Marc Sanchez aussi, qui n'était pas terrible ces derniers temps, bah, je pense que l'arrivée de Sambou Traoré a eu un petit effet bénéfique, c'est-à-dire ça l'a un petit peu reboosté, et puis ça va certainement peut-être permettre justement à l'équipe de développer un secteur intérieur qui n'était pas forcément dominant, mais avec Niang, Sanchez, Sambou Traoré et Tigre, s'ils se mettent tous, ça peut être un truc assez sympa.
Alors Causé, c'est rigolo, parce que c'est le meneur US hein, qui est réputé comme un droit shooter et autres, il était à 0 point à la mi-temps, c'était un peu, bon, il n'avait pas pris non plus, il n'avait pas croqué comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire pris des shoots un peu abusifs ou à 0 sur 10, il avait pris peu de shoots à la mi-temps, mais n'empêche qu'il finit, et c'est là la petite anecdote, parce que notre trio US, pardon, je vais même aller plus loin que Causé, c'est ils finissent tous les trois avec la meilleure statistique individuelle dans les trois grandes catégories, donc au point, c'est Marc Sanchez qui a marqué le plus de points dans l'équipe, c'est en passe décisive Glenn Causé qui en a fait effectué le plus, et puis au rebond, c'est Eugène Tigre. C'est quand même la petite particularité, il truste les trois catégories fortes des statistiques dites individuelles, même si à côté de ça, a été élu en meilleure évaluation, Marc Sanchez, on rappelle évaluation en général, c'est on reprend toutes les colonnes de statistiques, on divise avec le temps de jeu et tout tralala, le nombre de shoots tentés réussis, 2 points, 3 points, balles perdues, on enlève des points et tout tralala. Marc Sanchez, meilleure évaluation, mais avec quasiment 25 minutes de jeu, alors que Babacar Niang avait 15 déval, mais avec 15 minutes de jeu.
Ouais, c'est ça, 13 points. Hein, alors d'après ce qu'on a, les informations qu'on a eues, parce que j'ai pas vu le match, il y a 2 points de Babacar Niang qui ont été attribués alors que c'était Causé qui les avait marqués. Ce qui fait que ça arrondit un peu. Causé termine à 0 d'évaluation. Alors ça pourrait effectivement être un petit peu inquiétant. Maintenant, il joue 35 minutes. Donc en 35 minutes, tu gagnes un match de 14 points à l'extérieur. Je pense que quelque part, il a fait le boulot au niveau de la distribution. Donc c'est plutôt pas mal. Effectivement, c'est le fait de voir les trois Ricains, c'est un peu la science du jeu US qui parle quoi sur au niveau statistique.
Ouais, puis Guillaume, notre capitaine Courage qui est entre deux paniers primés, là où Konaté conçoit à un moment donné qui est un peu moins bien, ils reviennent à 5-6 points, il enchaîne un 3 points, une interception. On va s'appuyer sur ces joueurs du club marqués depuis 2-3 ans là.
Et puis Sambou Traoré qui fait 4 sur 4 au tir, voilà, il a très peu joué, il est un peu à court de forme là, il a fait paraît-il un très bon premier entraînement qui a un peu surpris tout le monde. Bon, après il a un peu marqué le coup parce qu'il a pas réussi à s'entraîner.
Puis il a plus 25 ans Sambou.
Il a presque 35 balais le bon Sambou, mais Sambou il a fait le taf, il fait 4 sur 4, il marque des paniers importants justement pour éviter que Souffel revienne trop près à moins de 2 positions de l'ALM. Donc voilà, c'est plutôt un signe encourageant avant la venue de Rouen qui va être un.
J'allais
très,
parler
très gros
de l'adversaire, c'est une des grosses équipes de la division.
Alors c'est
clairement.
C'est la très grosse équipe. On va le dire avec Monaco, parce que je pense aussi que Monaco va faire beaucoup de mal.
En sachant qu'ils ont, et tu allais l'évoquer très certainement, perdu un joueur là, qu'on connaît bien.
Ils ont perdu Steve Oyufat, c'est une déception pour nous parce qu'on espérait tous le revoir jouer. C'est quelqu'un de spectaculaire, très vertical, mais qui pouvait faire beaucoup de mal. Bon, Steve, il lui est arrivé un petit pépin, on va dire d'ordre domestique.
Ouais. C'est rare, une blessure domestique.
On a quelques échos de la version officieuse, mais la version officielle, c'est l'accident domestique, on va dire. Voilà, on va rester là-dessus.
Couper un doigt. Après, je ne sais pas si c'était pour des huîtres ou des frites, mais.
Ouais, je pense que pour autre chose aussi.
C'est ta mère en short, hein. Si tu as des infos, Philippe, tu dois balancer.
Je pense qu'il a rencontré un bruit de glace, on va dire. Et donc, par contre, il a été opéré. Ça, c'est triste pour lui, c'est qu'il a été opéré de la main.
Il sera pas en face de nous vendredi.
Il sera pas en face de nous avant un petit bout de temps, parce que je pense que l'opération peut, je pense qu'il y a un tendon qui avait été touché, donc ça peut mettre un certain temps, et c'est vraiment dommage, parce que c'est un joueur qui est intéressant, qui essaye de se refaire une santé après une année difficile à Cholet. On lui a fait une proposition à Évreux. Ça a été bien de le voir revenir. Bon, maintenant, faut lui souhaiter un bon rétablissement aussi.
N'empêche qu'ils se sont imposés 66-60 face à Poitiers, qui est pas la dernière non plus des équipes de cette division. Donc, on les recevra vendredi à la salle Omnisport à 20h pour, là, ça va être un vrai test, pour le coup.
Ah ouais, ça, c'est certain que c'est déjà le premier gros morceau.
Raphaël Desroses.
T'as Desroses, Kenny Grant, t'as
CJ Jackson, voilà.
T'as aussi un jeune prospect, là, qui est au poste numéro 4, je me rappelle plus le nom, là, qui est, paraît-il, très intéressant, qui sera certainement un futur grand joueur de Pro A, si c'était mieux, qui sera au poste 4, donc à la place de Steve Oyufat. Ça va être un vrai premier test. Bon, je pense qu'ils vont en avoir beaucoup, parce que l'ALM a la particularité de recevoir, je crois, 7 des 8 plus gros budgets lors des 7 prochains matchs, donc ça va être très 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 difficile.
Rendez-vous vendredi 20h
exact,
à domicile à Saint-Omnisport pour le championnat et pas la coupe Mickey.
Il y aura une radio de Rouen qui fera le déplacement.
D'accord,
sachez-le.
C'est le dit, bien vu. Musique.
Yo, lighten up. Light up. Da, 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 da. Herbalizer on the track. Alitiba on the track. Big Jake on the track.
Yeah, how huge, hiding out in Belarus in a hotel room, watching Teletoon, with a couple chicks looking like Vanilla Cruz, outside Vanilla Sky, they in Cinderella shoes. After midnight, right? Clark Kent, don't give a shit, kryptonite, missile flight, ballistics, this is dystopian, travel through your limbic system like opium, enigmatic, the team burger back, same demographic the team Bieber had, Bobby Tim Buck, my custom beat a man, make your girlfriend say,
I wanna make that dash.
Y'all, Peter Pan shit, still running with who I ran with, y'all limited, can never handle the bandwidth. It's too thick, I'm cool, but you a toothpick. I'ma turn water to wine like Jesus did.
Stay stupid, dope, we smash them all. Out for treats on the low like a dashing dog. I'm where the lights, cameras, and the action are. When I splash your squad like the Natasha Yard, baby. Cold as a Klondike, hold on tight to your bonsai for the napalm strike. Like Megatron with the brains of James Bond. Blazing these fakes in my wake like H-bombs. What, lighten up? You tights ain't nice enough to suffice with the lights of us.
Priceless with the mics and the lights is up. Department agent, Timber. Hype as fuck, what?
What? Lighten up, you tights ain't nice enough to suffice with the likes of us.
Old Tipper gon' slice it up, and Big Jake with the bass all up in your face.
Moment of truth, dude, who's blowing the fuse? Open the booze, sing your Beethoven the tune. Broke as a joke, still poking your boo. Shorty look good, thrown in a stoop, cannibalistic. First try, landed a kick, flip you a punk, and never was a fan of the Misfits. Team Burger, word, we amazing as shit. Sorta like when Transformers changing the whips. The pace of a pimp, on my first date with your chick. Went from nice to meet you, straight to naming our kids. Famous as Cliff, hugs the bull, shucks and juxtaposed to giving the fuck, puts touch your toes, yo. No amount of calisthenics or paramedics prepare your foul presence for devouring the valor. Venom. Never trust a big button, a smile, bottom line. There ain't no touching the style.
We going buck wild, yeah, rocking the crowd. I'ma leap tall buildings in a single bound. Rapping for T-Town, homie give him a pound. And we pack a full dose, never little amounts. It's the clash of the titans, crashing like lightning. Get sacrificed to boss and bison. Off my rocker, lethal type Bryson. Get hype and blow up the spot like Miles Dyson.
Whoa, lighten up, you tights ain't nice enough to suffice with the likes of us.
Priceless when the mics and the lights is up. Department agent, Timberger hype.
What? Lighten up, you tights ain't nice enough to suffice with the likes of us.
Old Timber gon' slice it up.
Big Jake with the bass all up in your face like this.
Lighting Up de Timbuktu, ce rappeur suédois qui était accompagné par les Ghetto Sox, et oui, les chaussettes du ghetto, et The Herbalizer sur un album qui vient de sortir, Oh Hudge, The Legend of Howard Hudge. Voilà.
Et voilà, on va s'attaquer plus concrètement et dans le vif du sujet avec l'Evreux BMX. On rappelle Isabelle et Jean-Luc, respectivement présidente et vice-président d'Evreux BMX, donc club de BMX. On va en savoir un petit peu plus, découvrir un petit peu ce club. Depuis quand existe-t-il ?
Eh bien, le club va fêter ses 30 ans en 2015.
Donc, c'est quand même un club qui a du vécu, quoi. Il s'est passé pas mal de choses avec un petit peu d'histoire.
Oui, la première piste, quand le club a été créé, la piste était à Trangis.
D'accord. Ce qu'on voit encore.
Voilà, il y a toujours le champ de bosse là-bas. Et après, elle a été délocalisée à Saint-Michel, où là, on a une vraie piste maintenant de niveau national.
Elle est où cette piste à Saint-Michel? Parce que moi, je ne vois pas.
Elle est...
Peut-être que je suis déjà passé...
On vise la déchetterie, on continue un peu, en fait.
Ouais, je crois que je l'ai déjà vu, en fait, mais je veux bien que vous expliquiez.
Il y a deux entrées
auditeurs
de Saint-Michel. Pardon.
Par la côte, par la rue du Valiton.
Oui, qui monte à la déchetterie,
qui monte à la déchetterie, et c'est juste après les cours de tennis.
D'accord. Ok, moi, en fait, j'ai déjà dû passer maintes fois devant. Mais,
oh oui.
Mais je n'avais pas fait... sur le moment, je ne m'en souvenais plus. Bref, quel est un peu l'objet du club, de l'association? Quel objectif il vise? Aussi bien éducatif que sportif, etc.
Alors, y a déjà l'école de cyclisme pour tous nos petits. Enfin, petits et moyens et grands. On a des pilotes qui le font pour le loisir et on a les compétiteurs qui nous font le championnat de Normandie, les Coupes de France, les manches Europe et jusqu'au championnat du monde.
Il y a des personnes du club qui font les mondiaux de
oui.
BMX.
Oui, ah ouais, oui,
c'est quand même c'est quand même la classe quoi. C'est... Oui. Combien il y a d'adhérents à Évreux BMX?
On a actuellement 190 licenciés.
D'accord. Et donc ça, les tranches d'âge, ça va des tout petits aux adultes confirmés, c'est ça?
C'est ça. Ça va de 4-5 ans, dès que l'enfant sait faire du vélo sans roulette, qui peut monter les bosses, qui n'a pas peur, et ça va jusqu'à il y a pas d'âge quoi. C'est tant que le plaisir est là, les pilotes y vont quoi.
Y a-t-il des salariés pour encadrer justement ces jeunes et ces moins jeunes?
Oui. Oui, on a un éducateur, enfin un entraîneur salarié. Et on a aussi un entraîneur mis à disposition par la mairie.
Et ces entraîneurs-là, est-ce qu'il y a un diplôme particulier, un diplôme d'État du BMX pour pouvoir enseigner cette discipline?
Oui, bah oui, il y a le brevet d'État, il y a, et puis il y a des brevets aussi fédéraux pour les encadrants bénévoles des jeunes à partir du BF1 qu'ils peuvent avoir à partir de 16 ans.
À quel public ça s'adresse ce sport en fait? Est-ce qu'il faut forcément avoir une super condition physique et être un musclor ou au contraire c'est un peu ouvert à tous pour peu qu'on soit un peu casse-cou?
Ah, le BMX est ouvert à toute personne volontaire en fait de découvrir ce sport très fun. Après il n'y a pas de condition particulière qui répondent effectivement à un postulat de base, pas du tout. C'est un sport maintenant qui se développe, donc qui s'organise autour de ses entraînements avec des exercices très particuliers qui demandent beaucoup de technique. C'est-à-dire qu'avant d'acquérir la technique du BMX, il faut y passer quelques mois sur la piste à travailler, à retravailler et à remettre l'ouvrage sur le tapis, comme l'on dit. Donc il n'y a pas de critères du tout sportifs particuliers, il suffit d'avoir la volonté et de toujours préserver le plaisir surtout, ça c'est une notion essentielle.
Je me demandais, on va peut-être y revenir sur les compétitions qui ont lieu ce week-end. Il y en a une le week-end prochain, on va pouvoir en reparler un petit peu. Mais comment on juge en fait une compétition, une épreuve de BMX? Qu'est-ce qui est noté ou qu'est-ce qui est recherché? Est-ce qu'il y a l'aspect un petit peu artistique avec des figures comme au patinage artistique, ou c'est un run où on passe plusieurs obstacles avec celui qui fait le meilleur temps?
Alors on prend pas les temps. Les pilotes sont maximum 8 sur la grille et c'est un sprint. Donc les 4 premiers passent en phase suivante et après c'est éliminatoire. Il n'y a que les 4 premiers qui restent pour aller jusqu'en finale. Mais il n'y a pas, de figure. Ça, c'est une autre discipline du BMX qui fait ça. Mais en compétition, nous, dans la race, surtout pas.
D'accord, donc c'est une course et qu'il faut gagner pour être le meilleur, c'est ça?
C'est ça.
Alors, Jean-Luc rappelait qu'en fait, il n'y a pas longtemps que c'est devenu une discipline olympique. C'est vrai qu'il ne faut pas zapper la chose. Ça, depuis combien de temps vous le disiez?
Donc, le BMX est devenu discipline olympique depuis les Jeux de Pékin en 2008 et bien sûr 2012. Et la chance que l'on a eue pour notre sport, c'est qu'en 2008 à Pékin, deux filles françaises, Laetitia Le Corguillet et Anne-Caroline Chausson, étaient respectivement médaille d'or pour Anne-Caroline Chausson, médaille d'argent pour Laetitia. Et ce qui a eu comme effet un effet boomerang sur l'intégralité des clubs français. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la fédération a enregistré, mais de 2008 à 2009, un bon record dans ses licenciés BMX, comme jamais dans l'histoire du BMX on ne l'avait vécu. Et pour vous dire, le lendemain de ces Jeux de Pékin, le téléphone sonnait chez tous les dirigeants du club pour justement demander des renseignements pour les petits qui venaient de découvrir ce sport à la télé, parce qu'en fait ce sport n'est pas médiatisé du tout, donc tout le monde découvrait ce sport fun qui répondait tout simplement aux attentes des jeunes d'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un sport fun dans lequel ils vont, comme ils disent, s'éclater, prendre du plaisir. On revient toujours à cette notion de plaisir, et en l'occurrence, dès le lendemain, on a eu des tartines de coups de fil, et ça n'a pas arrêté, et on est passé d'un seul, de 70 licenciés à 150, 170, 190.
Ah oui, ça a plus que doublé les inscriptions dans votre club, le fait qu'il y ait une championne olympique. Je voulais qu'on revienne rapidement sur l'histoire de ce sport. Vous parliez justement que c'est les jeunes trouvaient ça plus fun, enfin trouvaient ça fun, et j'imagine oui que c'est plus fun que le Tour de France en vélo de course. Moi personnellement, je regarde le Tour de France chaque année, ça me passionne. Est-ce que c'est venu des États-Unis comme la plupart des sports de ride ou de glisse comme on appelle?
Et oui, ça vient de là-bas. On se rappelle tous, on remonte quelques années en arrière, on se rappelle tous du film E.T. avec son petit BMX.
C'est vrai.
Où il transportait son E.T. dans tous les sens, il volait, il s'envolait, enfin voilà. Donc c'est vraiment un sport qui vient des US, qui là-bas est hyper développé, hyper médiatisé, avec des courses uniques au monde qui se passent là-bas. Et on a les meilleurs Français qui vont régulièrement passer une année sportive, deux années sportives, se forger justement aux règles du BMX US et reviennent systématiquement en France en étant les porte-drapeaux français.
Oui, c'est parce que vous disiez que c'était pas médiatisé, mais c'est en France que c'est pas médiatisé visiblement. Vous avez l'air de dire qu'aux États-Unis, par contre, c'est suivi par les médias, etc.
Là-bas, ça fait le buzz. Tous les jours, ça fait le buzz. Vous avez quasiment des chaînes TV spécialisées dans les sports fun où vous voyez du BMX passer quasi en boucle. Si, là-bas, c'est très, très fort. Alors après, il faut aussi savoir que, effectivement, on manque cruellement d'un manque de médiatisation, alors que la nation française est la deuxième nation mondiale du BMX au niveau des résultats.
Ouais, c'est tout un paradoxe. Hein.
C'est tout un paradoxe.
Je veux bien qu'on revienne sur Evreux BMX. En termes de partenaires, qui vous soutient, avec qui vous travaillez, voilà, savoir un petit peu les partenaires d'Evreux BMX.
Alors, les partenaires, on a évidemment la mairie, qui nous aide beaucoup.
Donc on l'a dit, mais on le redit, vous êtes basé sur Saint-Michel.
Oui.
Le siège de l'association est là-bas.
Oui. Et après, on a la région, on a le conseil général, et puis quelques partenaires privés. On a notamment les cycles chasserés qui nous aident énormément, aussi bien pour le club que pour notre équipe d'EDN, donc de Division Nationale 1. Et après, beaucoup je vais mettre entre guillemets petits parce que on n'a pas des partenaires aussi
consistants que d'autres clubs sportifs qui ont un partenariat tout de suite, c'est un gros montant.
C'est ça.
Là, c'est de nombreux partenaires, mais à une petite échelle avec leurs moyens.
Vous n'avez pas encore un émir qatari qui investit à coups de milliards dans Evreux BMX. Voilà, c'est le problème de la médiatisation, ça, c'est ça.
Voilà, peut-être dans les années à venir, on ne sait pas. Hein.
Mais sans doute qu'après cette interview, peut-être. Le qatari va nous appeler.
Voilà.
On vous le souhaite.
Voilà. Mais bon, on est bien aidé par tout le monde.
Est-ce que ça ne vous embête pas si on parle un petit peu du budget? Quel est le budget du club et à quoi ça sert?
Approximativement,
on rentre pas dans.
C'est
pour avoir une idée.
Par exemple, est-ce que c'est. Oui, c'est, il a raison de vous poser la question. Est-ce que c'est pour les dépenses lors des compétitions à l'extérieur? Est-ce que c'est pour acheter une base matérielle pour les jeunes? Est-ce que c'est pour l'entretien de votre piste? C'est vrai qu'on est curieux de savoir ça.
D'accord. Le budget annuel tourne en moyenne, à quelques euros près, aux alentours de 100 000 euros. Recettes, dépenses. Et il faut savoir qu'en dépenses notamment, les principales dépenses sont le salaire de l'entraîneur, ça va de soi. Sont les engagements à toutes les épreuves qui sont prises en charge par le club, justement. Et il faut savoir, le week-end prochain, on va revenir dessus, la Coupe de France, l'ultime manche de Coupe de France qui se déroule à Saint-Quentin, par pilote et par jour, l'engagement est entre 16 et 20 euros. Et lorsque vous envoyez 50 pilotes sur le week-end, vous mesurez de suite l'impact que cela a sur le budget. Donc, voilà, déjà, ces deux sujets. Ensuite, lorsque l'on fait des menus travaux sur le terrain, donc le club financièrement participe toujours à ces menus travaux. Cela va être de payer les cotisations annuelles à la région, à la fédération. Typiquement, ce sont ça, plus évidemment l'équipe de division nationale, vis-à-vis de laquelle le club prend en charge l'achat de matériel, les déplacements, l'hébergement, la restauration et à nouveau, bien sûr, les engagements. Donc, on tourne dans les dépenses autour principalement de ces sujets-là.
Plus du matériel qu'on achète pour l'école de BMX, ça peut être de l'équipement de vélo, par exemple. On achète des vélos pour permettre à des jeunes qui débutent de ne pas investir tout de suite dans un vélo dans les 500 euros et de louer de louer le vélo avec le casque, les gants, de façon à ce qu'ils découvrent au moins le premier trimestre le club, quoi. Enfin, le club, la discipline. Et bien sûr, les plus mordus rachètent leur vélo, enfin, rachètent un vélo et puis s'équipent de plus en plus.
Il n'y a pas de professionnels dans cette discipline, notamment dans votre club, ou ça, au contraire, ça existe ? Des gens qui gagnent leur vie grâce au BMX ?
En France,
c'est rare.
En France, il doit y en avoir un, c'est Joris Daudet, champion du monde qui est parti aux États-Unis. Ça doit être le seul, à ma connaissance, qui arrive à en vivre correctement. Après, dans la catégorie élite, élite 1, eh bien, ils n'arrivent pas à en vivre. Donc, malheureusement, faut trouver des sponsors. Ils travaillent en même temps, qu'ils font les compétitions. Donc, il arrive un moment où ils sont obligés d'arrêter le haut niveau parce que c'est plus conciliable.
Avec une vie professionnelle et...
Avec la vie professionnelle. Ça demande un temps, un investissement quand même colossal au niveau des entraînements. Une application quasiment totale, quoi.
Quels sont les jours d'entraînement pour les plus petits comme pour les plus grands ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des entraînements toute la semaine dans votre club ?
Oui, il y a des entraînements toute la semaine. On a été obligé de moduler avec les nouveaux rythmes scolaires. Tout ce qui était entraînement du mercredi matin, on a dû étaler tout ça le soir. Donc on a des créneaux du lundi au vendredi soir et le samedi toute la journée.
Et donc du coup, cette refonte des rythmes scolaires, ça a eu un impact sur le nombre de licenciés, par exemple, le fait d'avoir moins de plages horaires pour les enfants, notamment, de devoir l'étaler sur le reste de la semaine, notamment le mercredi après-midi.
Pour l'instant, sur le nombre global de licenciés, non, ça ne se ressent pas encore. Par contre, là où ça se ressent, c'est qu'on a une liste d'attente de jeunes qui souhaiteraient venir dans le club et que pour l'instant, on n'a pas la place dans les créneaux horaires.
D'accord, donc il va y avoir peut-être trouver des solutions en cours d'année pour les prendre en charge.
Là, ce qui se passe avec les entraîneurs, les deux entraîneurs, c'est que les jeunes qui ont un niveau qui progresse vite peuvent changer. Les entraîneurs leur proposent de changer de groupe, de passer dans un groupe supérieur, ce qui libère de la place dans le groupe où on manque de temps.
Il faut réussir à s'organiser.
Voilà.
On va se faire une petite pause musicale et puis on va revenir avec Isabelle et Jean-Luc du club Évreux BMX. On se fait une petite pause, on va voyager du côté de Cuba avec le groupe Ska Cubano.
Loco hasta un japonés a la rumba. sonrisa y le diga ven negrita, vamos a rumbear. Qué lindo está cachito.
Cubano avec le morceau Cachita.
Avant de rentrer un petit peu dans votre intimité intime, mesdames et messieurs, Jean-Luc et Isabelle, je juste aborder deux, trois bricoles. Le matériel, donc vous avez dit quelque part, il y avait une partie du club qui pouvait prendre en charge une partie matérielle pour les plus jeunes qui n'auraient pas d'équipement, l'équipement adéquat. On imagine bien sûr un vélo, mais c'est pas un vélo dit traditionnel. J'imagine qu'il y a soit une taille de rayon, soit une manière de des crampons qui sont particuliers ou un poids de vélo. Est-ce que ça rend compte ces aspects-là, par exemple sur le vélo en question? Et sur les casques et la protection qui va bien, j'imagine.
Alors le matériel, c'est vrai, c'est du matériel tout à fait adapté. Moi qui viens plutôt du milieu de la route, lorsque j'ai vu ces vélos pour la première fois, je me suis posé plein de questions. Ce sont des vélos 20 pouces, donc les petites roues 20 pouces. Pour certains, c'est du 24 pouces, ce qu'on appelle les cruisers. Donc c'est vraiment du matériel très spécifique que l'on achète que chez des spécialistes, comme les cycles chasseries que l'on a cités tout à l'heure. Nulle part, vous ne trouverez ailleurs de ce matériel très spécifique. D'accord. Pour la partie vélo, vous avez évidemment le casque intégral. Il faut impérativement penser à la sécurité des pilotes. C'est très dangereux. Une chute sur une piste peut avoir des conséquences dramatiques. Vous avez les casques intégraux et vous avez la
coudière, genouillère, non ?
Coudière, genouillère, vivement recommandé. Pantalon long, manches longues.
Qui ne sont pas obligatoires alors ?
Eh non.
D'accord. Ça, c'est, on peut faire une compétition de haut niveau et ne pas en avoir obligatoirement sur soi.
Voilà, encore une fois, ça fait partie du fun de dire je vais jusqu'au bout, je porte pas de protection.
Bon, les pitchouns, on imagine que si.
Pour les pitchouns, les parents, ils sont très sensibles.
Voilà. Est-ce qu'il y a une tenue? Parce que on sait que dans les sports co, même individuels, il y a toujours un emblème, une couleur de maillot. Et comment ça se passe sur une tenue, justement, cette, on appelle ça comment, une tunique chez les pilotes? C'est
non,
comment?
Non, non, un maillot de BMX, tout
c'est
simplement.
C'est un maillot, d'accord.
Et un pantalon de BMX qui s'apparente très clairement au pantalon de motocross.
Une couleur particulière qui ressort pour l'Evro BMX?
Alors là, oui, on a le maillot du club, bien évidemment, que tout le monde s'arrache, ça va de soi, parce que derrière, il y a quand même l'identité du club. Exactement.
On n'est pas sans croisière ou chartraine, 3-4 maillots le week-end. Hein.
En principe, c'est comme ça que ça se passe, ouais.
Du coup, il ressemble à quoi ce maillot?
Ouais, vous ne nous avez pas dit les couleurs ou l'emblème?
Il y a deux couleurs. Il est fond blanc avec une flèche devant et derrière, soit rouge et blanc, soit bleu. Et on a aussi la tenue complète pour l'équipe de DN, qui est tous les pilotes sont habillés de la même façon, de la tête aux pieds.
D'accord. Les modalités, les tarifs, en fait. Donc moi, j'ai une brochure devant moi avec des tarifications. C'est lié à l'âge, on imagine, après le prix que coûte ce qu'on doit remettre aussi à la fédération. Ça va de combien en gros pour faire le BMX, même sur les attentes?
Alors, tenez. Oui, la licence de base, en fait, nous, il y a la licence licence fédération, plus la cotisation au club. La licence de base, c'est la licence de la Fédé, donc qui va de 44 euros à 80 euros pour les juniors. C'est vrai que la fédération fait le constat qu'elle manque de jeunes, et notamment de juniors. Et encore une fois, c'est assez curieux, mais c'est la catégorie qui est la plus chère en licence. Bref, il y a cette licence, plus la cotisation au club, selon le niveau de compétition auquel on veut accéder.
C'est la plus chère parce que peut-être que les juniors sont les plus casse-cou. Non,
non,
c'est une réflexion idiote comme ça.
Je croyais que vous alliez aller plus loin et les plus chiants, mais de manière plus vulgaire.
Voilà.
Non,
simplement, c'est une catégorie dans laquelle la fédération.
Il y a plus de casse matérielle, vous avez le droit de le dire.
Comment ce tarif, il y a peut-être plus
de casse. C'est ça que je sous-entendais.
Bien vu. On vous joint comment? Une adresse mail, un téléphone? C'est comment pour joindre le EvroBMX?
Eh bien, il y a une adresse mail, il y a les adresses mail, il y a le site. Il y a le site de l'Evreux BMX où il y a un lien direct pour nous joindre, nous envoyer un mail ou sinon...
www.evreuxbmx.com, hein, je
c'est
me permets.
Ça. Tout à fait, on est présent là-dessus et on est présent aussi sur Facebook.
Mais ben voilà.
C'est vrai que tous les groupes maintenant, tous les clubs sont sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook.
Voilà, c'est pratique, on met des photos, on met les résultats, on met... toutes les infos et sur le site et sur Facebook.
Eh ben, la vie du club. Eh ben, justement, voilà. La vie des clubs, pour vous, présidente Isabelle, et vous, vice-président Jean-Luc, mais a priori, vous avez été président aussi du club, c'est cela. Donc, vous connaissez bien cette entité qui avait quand même changé d'appellation il y a quelques années. Parce que le club va avoir 30 ans en 2015, mais si je ne me trompe pas, il y a eu un changement d'appellation il y a peu. Il y a quoi, 7-8 ans, c'est ça?
2008, ouais, lorsque la Fédération française a mis en place la structuration des clubs de division nationale avec les équipes en division nationale, il fallait impérativement, pour avoir ce label, avoir dans l'appellation du club le mot BMX que nous n'avions pas. Nous appelions à l'époque Bicross Club Évreuxien.
Alors justement, vos vies à vous, on imagine, et c'est le cas de tout bon nombre de bénévoles, puisque vous êtes bénévole en tant que président et vice-président. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a deux encadrants salariés, un mis à disposition par la mairie, mais un qui vous est à vous, que vous rémunérez vous le club, plus des formateurs et encadrants bénévoles. C'est toujours du temps supplémentaire de sa vie de tous les jours, de parents, dans sa vie donc sociétale familiale, mais aussi de sa profession. Vous êtes dans quel secteur d'activité, sans être indiscret l'un et l'autre, Isabelle, vous? Actuellement, sans emploi. Je ne dis voilà, pas de bêtises, mais du milieu emploi, du BTP.
C'est ça.
Mais
c'est
envie ça. De se rechanger.
Envie de reconversion.
Donc du coup, c'est plus de temps pour le club quand même, parce que ça se trouve, c'est ça, on est happé encore plus par le club quand on a un peu plus de temps, entre guillemets.
C'est pas faux.
C'est ça un peu la vérité du quotidien.
C'est un peu ça. Bon, c'est vrai que là, j'ai un petit peu plus de temps, donc je m'investis. J'ai plus de temps, donc je fais un petit peu plus. Par contre, il y a aussi la fonction de maman de pilote.
Alors, j'allais le demander, est-ce que voilà, derrière, on enfante des pitchounes qui...
on vient dans le BMX par l'enfant.
D'accord.
Quand on n'est pas pilote soi-même. Donc, on a mis le doigt dans l'engrenage il y a 7 ans avec le petitot, qui maintenant fait 1m83. Donc, je ne peux plus l'appeler petitot. Et donc, on a mis le doigt dans l'engrenage. Et puis maintenant, on parle BMX, on vit BMX, on prépare le camping-car le vendredi, on le vide le lundi et on le reprépare le vendredi pour enchaîner les compétitions.
Sur la route, ouais.
Et on passe les vacances BMX.
D'accord. On va sur des endroits ou des spots où les terrains sont très certainement repérés. Ou...
Challenge mondial en Hollande et challenge européen au Danemark.
D'accord, on voit du pays.
Ça fait
on
voyager, ouais, c'est cool ça. Ouais.
Jean-Luc, vous, c'est comment l'histoire? Vous êtes de quel secteur d'activité, je me permets?
Et moi, je travaille au Grand Évreux Agglomération et j'y suis directeur de l'eau, de l'assainissement, donc un métier passionnant.
D'accord, effectivement. Et ça laisse quand même, malgré tout, du temps pour s'impliquer dans le club. Pourquoi d'ailleurs, parce que Isabelle avait peut-être un poil plus de temps? C'est vous parce que vous aviez fait de nombreuses années à la présidence? C'est parce que vous avez à gérer aussi des membres de la famille? Pourquoi ce très léger retrait, puisqu'en vrai, vous êtes toujours très investi?
Oui, j'ai passé à peu près une dizaine d'années à la présidence du club pour développer le club, pour amener le club aujourd'hui à la structuration où il est arrivé, avec cette équipe en National 1, avec cet entraîneur salarié, avec cet autre entraîneur mis à disposition. On a travaillé avec toute une équipe de bénévoles, parce que rien ne se fait seul, hein, il faut bien le savoir quand même. On a travaillé avec toute une équipe de bénévoles à structurer le club comme cela. Et à un moment donné, ça c'est moi, si vous voulez, je me dis, bon, bah, on a atteint un objectif. je passe la main et aujourd'hui je reste dans la structure pour donner un coup de main, bien évidemment, parce que le cyclisme en général est ma passion. Et voilà, donc je passe la main et aujourd'hui je continue d'aider, bien évidemment, l'équipe en place, parce que c'est une équipe de bénévoles qui est merveilleuse, avec des gens de bonne volonté. Et c'est vrai qu'il est rare aujourd'hui de voir des gens de bonne volonté en capacité de s'investir pour un sujet, pour le bien d'une collectivité. Et c'est bien ce qui est passionnant au sein de ce club.
D'accord, on l'imagine facilement, avec tel résultat et nombre de licenciés, qu'il y a une sacrée équipe de bénévoles. Un passé sportif, Isabelle, est-ce que il peut être tout autre, hein, vous pourriez me dire la natation synchronisée ou du golf, il y a un passé sportif vous-même, ou même vélo d'ailleurs, loisir ou autre, ou absolument pas, c'est avant tout un investissement humain et bénévole au club. Est-ce que vous, il y a un passé sportif?
Étant jeune, j'ai goûté un peu tous les sports, tennis, basket, vélo.
En licence, en fédération, en club,
un peu de natation.
Donc vous êtes une sportive?
J'étais.
Ah, vous êtes une sportive dans l'âme.
Oui, tout à fait. Et non, maintenant non.
D'accord.
Un peu de VTT vraiment quand il fait beau, mais vraiment en loisir.
Ouais, maintenant c'est plus l'organisation, du stress, de la réflexion, et c'est le cérébral qui prend le pas sur le corps, peut-être un peu plus maintenant.
Voilà.
Jean-Luc, vous, il y a un passé sportif en tant que citoyen, être hébroïcien peut-être?
Oui, hébroïcien depuis 1991, mais auparavant, beaucoup plus jeune, j'ai pratiqué effectivement le basket pendant 5 ans. J'étais bien jeune. Après, j'ai fait un peu de foot et très vite, je me suis tourné vers le cyclisme. Et,
sur piste, sur route.
Sur route, un peu de piste également, du cyclocross, là, ça va de soi. Et j'ai eu la chance de tomber dans un club à Livarot dans le Calvados. Pendant la pleine période de gloire des clubs, avant aussi la structuration de la fédération. Et en l'occurrence, ce club avait dans ses rangs des garçons comme Thierry Marie, passé pro, François Lemarchand, passé pro, Jean-Jacques Barthaud, le frère Vincent. Bref, on était une vraie équipe avec la participation à toutes les plus belles épreuves françaises, voire internationales. Et donc là, ce sont de merveilleux souvenirs.
Très bien. On aurait encore bien sûr moult questions à partager, sauf que on va essayer de pas trop déborder, hein, Monsieur Guimauquet, aujourd'hui, même si il y a de grandes chances que malheureusement on effleure. Vite fait quand même, il y avait une grosse compétition que vous organisiez, hein, qui a eu lieu à Évreux ce week-end, qui s'est donc bien déroulée. A priori, on va le savoir dans la presse, hein, on fait un clin d'œil à notre Fifi, on va le voir débouler dans la Dépêche ou leur Info cette semaine. Ça a été déjà dans un premier temps, le résultat, organisation.
Super,
le beau temps était là.
Parfait,
déjà.
Le beau temps était là.
Ça se passe comment s'il flotte ou c'est gros orage? On reporte, on remet ou on fait quand même? C'est des conditions qui sont celles du jour.
C'est les conditions, on suit la météo, mais il faudrait vraiment qu'il y ait de très grosses rafales de vent pour qu'on annule.
D'accord, je voulais ça.
Voilà, ou que la piste soit enneigée ou... Voilà.
Alors c'était une Coupe de France, c'était un championnat, un championnat départemental, vous l'avez évoqué, pardon.
Championnat départemental, ouais.
Et donc des bons résultats pour le club d'Évreux d'ailleurs?
15 titres sur 17.
D'accord, vous avez tout rappelé. Il y a combien de clubs d'ailleurs dans le département de l'Eure? On sait à peu près ça?
Nous sommes deux.
D'accord, l'autre c'est
Verneuil. Verneuil-sur-Avre.
Ah oui, c'est donc déjà, oui, forcément pour truster les résultats, mais en même temps c'est une mainmise totale quoi, sur les championnats.
Oui. Bon, à leur décharge, Verneuil ont des soucis avec leur piste, où là, ils vont pouvoir faire les travaux qu'ils attendent depuis un certain temps, presque 2 ans. Donc, on va pouvoir à nouveau organiser des compétitions, enfin un championnat départemental sur les deux pistes.
D'accord.
Au lieu de faire ça sur une seule manche, on pourra le faire comme d'habitude sur 2 ou 3 manches.
Ah, on peut imaginer vite que ça a une incidence de bien connaître sa piste. Donc, les jeunes sont habitués à tourner sur leur piste.
Voilà.
Ils ont des repères, quoi, clairement.
Ouais.
Et puis, même pour vous et même pour ces jeunes, de jouer avec des adversaires qui ont plus de pratique ou qui s'entraînent régulièrement, puisque là, c'est sûr que s'ils n'ont pas de piste, c'est plus compliqué. Ouais. Ce week-end, Jean-Luc, qu'est-ce qui va se passer du coup? Vous allez où? Vous faites quoi?
Coupe de France à Saint-Quentin-en-Yvelines, samedi et dimanche. Donc les deux dernières manches de la Coupe de France qui attribueront les derniers points pour le classement des clubs de division nationale, avec bien évidemment l'espoir de pouvoir se maintenir en division nationale 1.
Qui est le plus haut niveau dans le BMX français?
Qui est le plus haut niveau dans le BMX français, donc l'équivalent...
de la Ligue 1, de la Pro A, ou de l'excellence en tout cas.
L'excellence.
Et vous envoyez combien de jeunes du club, ou moins jeunes d'ailleurs? Une trentaine, vingtaine, c'est quoi la représentation de l'Evreux BMX à cette Coupe de France?
De façon systématique, on a à peu près une trentaine de jeunes pilotes qui participent à ces épreuves.
avec des attentes en particulier, parce que on vous disait en micro tout à l'heure avec Philippe que vous êtes considéré comme l'un des meilleurs clubs au niveau des résultats en France. Ça reste, c'est grand à vous, bravo. Mais c'est là encore des attentes du coup.
Ah oui, toujours des attentes. On ne peut pas vivre en dehors de ces attentes justement. Se dire que à travers ces coupes de France, il y a un classement individuel qui est établi sur les pilotes, donc ce qu'on appelle le classement par points. Et aujourd'hui, on a des pilotes qui sont dans le top de certains classements. Et on attend bien évidemment qu'à l'issue de ces deux manches, ils sortent premier, deuxième ou troisième. Et on aura forcément des pilotes dans ce classement.
Vous parliez même, je crois, d'une jeune fille qui elle, d'origine suisse, c'est ça, qui est licenciée au club d'Evreux BMX et qui a des grands résultats.
D'origine suisse, Christelle Boivin, qui est arrivée effectivement il y a un an maintenant dans notre structure, qui évolue en National 1. Et qui est tout simplement la championne du monde et d'Europe en titre des cadettes.
La
Donc,
c'est
belle pointure.
Ouais, ça fait un joli CV.
Ça va.
Ouais, ça va. Eh ben, écoutez, j'aurais pu vous poser 250 autres questions que nous avions notées et préparées avec Monsieur Guimauquet, mais on n'aura pas le temps. Ce qui est sûr, c'est que on pourra suivre ça donc sur Facebook, a priori, l'aventure à Saint-Quentin ce week-end, que vous êtes très investi. On sent bien que le club est bien structuré, mais parce qu'il y a peut-être aussi des cerveaux bien structurés qui encadrent et chapeautent ou pilotent ce club. Un gros club avec 180 licenciés, ce qui fait quand même à Évreux une grosse discipline bien représentée. Et bravo à vous. En tout cas, il est encore temps de venir s'inscrire, même s'il y a une liste d'attente pour certains jeunes.
Oui.
Il va y avoir des mouvements. Il peut y avoir peut-être aussi, ce qu'on ne souhaite pas, des blessures. Mais en tout cas, il va y avoir des montées de catégories, on l'a évoqué. Le mieux, c'est de se renseigner auprès d'Isabelle Nunez, que je ne dise pas de bêtises.
C'est ça, pas d'erreur.
Et que vous alliez sur le www.evreuxbmx.com pour en savoir plus.
Voilà, vous venir directement sur la piste, voir comment que ça se passe. Et vous pouvez aussi sur Internet suivre les compétitions. Les Coupes de France sont retransmises quasiment à 100%.
Et sur le site de la Fédé ?
Sur BMX Today.
BMX Today,
BMX
merci.
Today, là, il y a les vidéos.
Très bien. Eh bien, la grande classe.
Merci à vous, Isabelle et Jean-Luc, d'être passés par le micro.
C'est vous le mot de la fin ? Une chose qu'on a zappée, une attente, un besoin, un reproche à la Fédé, une attente en particulier, un besoin de bénévoles supplémentaires ? Je vous en prie.
Les bénévoles, nous avons un bon noyau dur d'une trentaine de personnes qui nous aident tout le temps. Dès qu'on a besoin d'un coup de main, ils répondent présent, et ça c'est super important. Et sinon, moi, je voulais souhaiter une bonne chance à nos pilotes de DN et les autres pour la Coupe de France, la dernière manche à Saint-Quentin, et surtout Karl et Axel Le Nagar, sur qui qu'on apprécie énormément, les autres aussi, bien sûr. Hein,
mais... Axel et Karl, on vous attend au tournant.
Voilà.
Eh bien, moi, pour conclure, simplement, vous remercier de l'excellent accueil que vous nous avez réservé et vous dire qu'on est vraiment à votre disposition si un jour vous souhaitez que l'on revienne, c'est quand vous voulez, bien évidemment.
Faudra nous tenir au courant par mail ou quoi pour les résultats, notamment ce week-end par rapport à...
Qu'on en parle lundi, on reviendra sur le sujet. Si lundi, d'ici là, vous avez un petit mail ou un petit texto qui va bien, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre investissement, pour votre cœur donné à cette passion, parce qu'on sent bien que ça vous tient à cœur. Monsieur Guimauquet,
à la semaine prochaine.
Exactement.
On ne sait pas qui nous aurons comme invité, ce sera la surprise.
C'est surprise, surprise.
Exactement, mais on aime bien les surprises dans ta mère.
Exactement.
Une bonne semaine à vous, et puis faites du sport.
Et bonne chance pour la Coupe de France à Saint-Quentin.
Merci.
Karl et Axel, vous avez entendu, hein, vous avez pression, il y a eu deux prénoms cités, c'était vous les mecs.
Il y a les autres.
Au revoir.